France Inter.
Et bonjour à tous, c'est un projet controversé qui a provoqué de nombreuses manifestations. L'autoroute A69 devrait voir le jour en 2025 entre Castres et Toulouse. Mais beaucoup de questions se posent autour d'elle. Pourquoi a-t-on accordé une durée de concession de 55 ans? Quels seront les tarifs des péages? Et pourquoi la principale société concessionnaire réclame des dédommagements à l'État? Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Toutes ces questions et d'autres d'ailleurs, vous les avez examinées et on va donc les passer en revue avec vous.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
C'est de la pure folie que ce projet se poursuive. Nous continuons à aller droit dans le mur et à gaspiller des ressources pour quelque chose qui va à la fois détruire la nature et nous enfermer davantage dans ce système destructeur.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Greta Thunberg. C'était le 10 février dernier. La militante écologiste suédoise vient dans le Tarn pour soutenir les opposants au projet de l'autoroute A69. Une autoroute critiquée, on le sait, pour des raisons environnementales. On a beaucoup entendu les opposants là-dessus. Mais nous, ce que nous avons plutôt voulu voir, c'est qui étaient les acteurs qui soutiennent ce projet, que ce soit d'ailleurs officiellement ou officieusement, parce que la première des choses qu'on a remarqué, Benoît Colomba, c'est qu'un groupe très puissant dans la région a tout fait en coulisses pour qu'il aboutisse.
Oui, un grand groupe pharmaceutique et dermocosmétique, en l'occurrence le groupe Pierre Fabre, qui se dit clairement favorable à cette autoroute depuis plus de 25 ans. Un groupe qui pèse lourd dans la région et bien au-delà, comme l'explique le journaliste de France 3 Occitanie, Laurent Dubois.
Pierre Fabre, c'est en quelque sorte l'autre Airbus de la région, c'est-à-dire le second poids lourd industriel. Pierre Fabre, plus de 9000 emplois dans le monde, 57% en France et une majorité dans ce recoin d'Occitanie qui est le département du Tarn. C'est un acteur économique majeur. C'est le premier employeur du sud du département du Tarn. Forcément, il y a un poids économique et forcément une capacité d'influence politique.
Capacité d'influence politique, c'est-à-dire ?
Eh bien, ceux qui connaissent la région savent que Pierre Fabre a longtemps murmuré à l'oreille des élus. Bref, il a joué un rôle dans les coulisses, mais de manière plutôt discrète, constate encore Laurent Dubois.
Pierre Fabre avait une résidence à Paris et traditionnellement, il recevait au moins une fois par an les décideurs du département, les grands élus. C'était un moyen de se réunir autour d'une assiette avec toujours à la clé un petit cadeau, souvent un livre. Et effectivement, on répète souvent que c'est lui qui choisissait le maire de Castres quelque part. Pas possible d'avoir une carrière politique sans passer par lui. Pierre Fabre fait un peu l'appui et le beau temps économique dans cette partie d'Occitanie, mais il influence aussi la météo politique.
Et il va donc aussi influencer le projet de l'autoroute A69.
Oui, parce qu'à ses yeux, l'autoroute, eh bien, c'est forcément bon pour les affaires. Écoutez, Jacques Touroude, c'est un ancien élu UMP, l'ex-LR. Il a été maire adjoint de Castres, conseiller départemental et régional. Et il a travaillé près de 40 ans au sein du groupe Pierre Fabre.
Monsieur Fabre, il était vraiment attaché foncièrement à ce territoire. Et pour lui, l'autoroute, c'était une valeur sûre de développement, de désenclavement, de maintien de l'emploi. C'était une sécurité d'acheminement pour son entreprise. Il faut quand même que les véhicules de transport puissent circuler en toute sécurité. On ne pouvait pas prendre l'hélicoptère tous les jours ou faire venir un avion depuis Toulouse tous les jours. C'est une colonne vertébrale qui tient tout le reste du corps économique, quoi.
Et c'est donc pour ça que Pierre Fabre va pousser pour que l'autoroute se fasse. Et pour ça, Benoît, il va notamment s'appuyer sur une association.
Oui, elle s'appelle les Routes de l'Avenir. Elle est officiellement créée en 1999 par un visage connu, Laurent Cabrol, qui présente alors la météo à la radio et à la télévision et qui possède une ferme à Mazamé dans le Tarn. Nous l'avons rencontré et il raconte pour la première fois les coulisses de la création de cette association. Tout commence par une déclaration que Laurent Cabrol fait dans la presse locale. On lui demande ce qu'il souhaite pour la nouvelle année et voilà ce qu'il répond.
Moi je dis, je souhaiterais une autoroute.
dans la dépêche.
La
dépêche du midi. Et le Pierre Fabre me fait appeler et il me dit, venez, je veux vous voir. Et quand je le vois, il me dit, bah, écoutez, je veux faire une autoroute, je voudrais que vous soyez mon porte-parole. Mais porte-parole, comment? Il me dit, vous faites ce que vous voulez, je vous donne les moyens, vous créez une association. Alors je crée une association, les routes de l'avenir, et en l'espace de 2 mois, 8000 adhérents. On ne savait plus où les mettre.
Oui, ça fait effectivement pas mal de monde. Donc Laurent Cabrol devient en quelque sorte la voix de Pierre Fabre.
Oui, mais officieusement seulement, parce qu'à ce moment-là, peu de gens savent que Pierre Fabre est derrière. L'association fait bien campagne pour la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse. Mais le soutien de Pierre Fabre, lui, reste dans l'ombre, témoigne encore Laurent Cabrol.
Ça se fait en douce, c'est-à-dire que Pierre Fabre me donne, entre guillemets, un assistant.
Qui vous donne les moyens logistiques.
Il me donne et il me dit, ben voilà, créez l'association et puis je vous soutiendrai financièrement. Bon, c'était rien, attendez, créer une association, c'est 1000 euros, 2000 euros, c'était que dalle. Si j'avais besoin d'une photocopie, j'avais une photocopie. Vous avez peut-être rigolé, mais on en est là, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je lui demandais, je lui dis, je voudrais téléphoner, je voulais faire une page de publicité dans la dépêche du midi. Alors, il me disait, bon, allez, on fait la publicité. On a fait même des autocollants sur les voitures. Toutes les voitures de la région avaient à cette époque un petit autocollant, les routes de l'avenir. Une autoroute pour tous. Personne ne savait que Pierre Fabre était derrière. Pour Pierre Fabre, j'étais simplement un porte-parole clandestin.
Ouais, mais un porte-parole qui jouit quand même d'une certaine notoriété. Hein. Bon, cela dit, il n'est plus seul aujourd'hui, Benoît, puisqu'en fait, plusieurs élus locaux soutiennent aussi ce projet.
Un certain nombre, oui, on peut notamment citer l'actuel président de PS de la région Occitanie, Carole Delga, le président socialiste du département du Tarn, Christophe Ramon, ou encore le maire LR de la commune de Lavaur, Bernard Carayon, farouche partisan de l'autoroute et très proche de Pierre Fabre. Écoutez-le, Bernard Carayon, raconter comment le lien s'est noué entre les deux hommes.
Je suis élu député pour la première fois en 1993, battu par une candidate socialiste en 1997. Et je me souviens que le soir des élections, Pierre Fabre m'a proposé de venir un peu pour me réconforter, pour prendre un verre avec moi. Et puis, en me serrant dans ses bras, il me dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je lui dis « il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de vous installer sur le territoire de ma commune. » Et quelques semaines plus tard, il me téléphone, il me dit « est-ce que vous avez peur de l'hélicoptère ?» Je lui dis « non, il m'est arrivé plusieurs fois de sauter en parachute d'hélicoptère militaire, donc je peux bien monter. » On a fait un tour de la région et à un moment, il voit une clairière magnifique dans un bois tout près de ma ville. Et il dit « on va descendre là ». Et c'était le choix du prince, en quelque sorte. Je vois Pierre Fabre, et d'ouvrir toute la branche dermocosmétique 3 ans plus tard, en 2000, à Lavaur.
Les deux hommes vont ensuite militer donc pour l'autoroute, avec succès, puisqu'en 2006, le ministre des Transports d'alors, Dominique Perben, valide finalement le principe de sa création.
Oui, et là encore, Pierre Fabre fait partie de ses interlocuteurs. Interrogé par une commission d'enquête le mois dernier à l'Assemblée, Dominique Perben le reconnaît d'ailleurs, tout en banalisant ses relations avec Pierre Fabre.
Il est évident que M. Fabre, à l'époque, était très porteur de ce projet. Donc, il faisait un peu le tour des popotes, comme on dit. Et effectivement, il est venu me voir pour m'en parler et je l'ai reçu. Rien d'extraordinaire.
Et je précise que du côté de Pierre Fabre, on explique que les services de l'État ont pris leur décision en toute indépendance.
Ouais, mais si je comprends bien quand même, Benoît, sans lui et sans certains élus locaux, donc l'issue aurait pu être différente.
Effectivement, on le voit par exemple, en 2010, le ministre de l'écologie et du développement durable, Jean-Louis Borloo, hésite à donner son feu vert. Bernard Carayon explique être alors directement intervenu auprès du Premier ministre.
Jean-Louis Borloo était un peu rétif à l'idée d'une autoroute parce qu'il était en charge à l'époque du Grenelle de l'environnement et donc en négociation permanente avec les ONG environnementalistes. Et donc je sentais qu'il était un peu sur le recul sur cette histoire. Et donc j'ai joint le Premier ministre, François Fillon, et puis je lui ai mis le marché en main. Soit tu décides de forcer le bras de Jean-Louis Borloo, soit je quitte la majorité parlementaire. J'étais député UMP à l'époque. François Fillon, naturellement, a réagi comme il fallait le faire. Je me souviens d'ailleurs qu'un jour, en prenant l'avion pour Toulouse, dans la passerelle, j'ai reçu un coup de téléphone du Premier ministre qui m'a rassuré et j'ai pu donner ainsi l'information bien heureuse aux médias locaux.
Satan est bien heureuse, donc le feu vert est donné en fait à l'autoroute, sauf que le projet va ensuite s'enliser.
Oui, et 3 ans plus tard, Pierre Fabre monte une nouvelle fois au créneau, il est alors très malade et va bientôt décéder, mais malgré tout, en mai 2013, il tient à rencontrer en tête-à-tête le président François Hollande, qui est en visite dans ses locaux. L'ancien député socialiste du Tarn, Jacques Vallax, était sur place ce jour-là.
Hollande était venu pour confirmer son engagement et Pierre Fabre n'a fait que conforter François Hollande dans la volonté qui était la sienne de lancer ce projet d'autoroute. Tous les officiels étaient là et puis à un moment donné ils sont partis tous les deux et il fallait que l'État s'engage à financer. Le coup d'accélérateur a été donné par François Hollande à la suite de l'engagement qu'il avait certainement pris de façon indubitable auprès de Pierre Fabre.
Et un mois après cette visite, ce projet d'autoroute est désormais considéré comme prioritaire.
Ouais, sauf qu'il faudra attendre la présidence d'Emmanuel Macron pour qu'il se concrétise vraiment.
Effectivement, l'autoroute est déclarée d'utilité publique en 2018, l'appel d'offres est lancé et en septembre 2021, le Premier ministre Jean Castex annonce le nom du vainqueur, l'entreprise de BTP NGE. Le contrat de concession est signé et les travaux débutent en mars 2023.
Ouais, et à l'automne dernier, il y a quand même un petit haul-cœur. Les défenseurs de l'autoroute vont avoir une nouvelle frayeur.
Oui, parce que le ministre des Transports, à l'époque, Clément Beaune, évoque un possible moratoire sur les projets autoroutiers, y compris la 69, branle-bas de combat chez Pierre Fabre. Le groupe décide alors de faire passer un message très clair au gouvernement, comme l'a révélé le journaliste de France 3 Occitanie, Laurent Dubois.
Il y a une sorte d'action plus ou moins souterraine qui prend la forme d'une lettre envoyée au plus haut sommet de l'État afin de dire « sans ce projet, il n'y a plus d'investissement possible dans le sud des départements ». Autrement dit, à mots couverts, c'est une forme de chantage à l'emploi où du moins on met dans la balance le poids économique du groupe disant « nous sommes dans le Tarn, mais après tout, on pourrait être ailleurs ».
Et je précise que du côté du groupe Pierre Fabre, on confirme l'existence de cette lettre envoyée à Clément Beaune, tout en expliquant qu'il ne s'agissait que de rappeler sa position de principe. Quoi qu'il en soit, le moratoire ne s'est finalement pas appliqué à la 69.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors on a vu comment le groupe Fabre a poussé pour que le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres voit le jour. Maintenant, Benoît Colomba, voyons qui va l'exploiter cette autoroute.
Eh bien, il y a donc cette société de BTP choisie par l'État, NGE, ce qui veut dire Nouvelle Génération d'Entrepreneurs. Elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Et pour gérer et exploiter l'autoroute, NGE a créé une société concessionnaire baptisée Atosca.
Et c'est quoi Atosca ?
Eh bien, à son capital, en résumé, on retrouve une filiale de NGE, 2 fonds d'investissement et un gestionnaire d'actifs contrôlé par un géant de la finance, Ardian.
Donc ça, c'est pour les actionnaires. Maintenant, lorsqu'on essaye d'en savoir plus sur le contrat de concession lui-même, là, les choses se compliquent.
Oui, et vous allez comprendre pourquoi en écoutant la députée LFI du Tarn, Karen Erodi. Elle a tenté de consulter le contrat de concession et ses annexes, et voilà ce qu'elle a découvert.
Quand j'ai ouvert ce dossier, beaucoup de pages étaient grisées. Des blocs entiers cachés. Donc là, je demande à la personne qui me donnait le dossier, est-ce que je peux avoir en fait la transparence du dossier et avoir le contenu ? Elle me dit, moi, je vous donne que ça et secret des affaires. Alors là, les bras m'en tombent, secret des affaires pour un parlementaire. Je trouve ça très curieux. Donc on se penche un peu quand même pour voir les zones grisées. Ces zones grisées, c'est la réduction des nuisances acoustiques, le plan de financement, la stratégie de renouvellement et d'entretien et de maintenance de l'autoroute, les mesures environnementales du cadre du projet et la politique tarifaire. Toutes les questions essentielles.
Ouais, à ces questions essentielles, d'autres ont aussi eu du mal à obtenir des réponses.
Effectivement, c'est aussi le cas de la députée écologiste de Haute-Garonne, Christine Arrigui. En tant que rapporteure spéciale à la Commission des Finances, elle a normalement le droit de consulter ce document. Et pourtant, les choses n'ont pas été simples pour elle lorsqu'elle a demandé à voir les annexes du contrat.
Ces annexes m'ont été envoyées. Quelle n'a pas été ma surprise que ces annexes soient grisées.
Et donc, il a fallu que je redemande une autre fois en précisant que je demandais ces annexes au titre de l'article 57 de la loi organique des finances publiques pour laquelle le secret des affaires ne pouvait pas m'être opposé, peut être opposé dans ce cadre-là, le secret défense, le secret médical, mais pas le secret des affaires.
Et donc ?
Eh bien, la députée écologiste a fini par recevoir ce document, non grisé, mais elle est tenue à une obligation de confidentialité.
Ouais, et puis, elle n'est pas au bout de ses peines.
Non, parce qu'elle est aussi rapporteure de la commission d'enquête parlementaire qui a été créée sur la 69. Mais lorsqu'elle a cherché à avoir des précisions sur le tarif du péage, elle a aussi été très surprise.
On a des formules de calcul qui sont des formules mathématiques extrêmement complexes, qui ne correspondent pas à nos formules de calcul habituelles que l'on retrouve dans les contrats de concession, qui sont déjà très complexes. Et évidemment, il faut être un expert du sujet pour savoir véritablement combien un usager va payer le minimum du minimum que l'on puisse faire. C'est tout de même de s'informer sur combien ça va coûter aux usagers qui vont être finalement les contributeurs du passage sur cette autoroute.
Alors je précise que du côté d'Atosca, qui n'a pas souhaité répondre à notre micro mais par écrit, on explique que les formules utilisées dans le contrat de concession sont parfaitement réglementaires. Et j'ajoute que pour l'instant, le prix estimé d'un aller-retour Castres-Toulouse pour les véhicules non électriques tournerait autour de 20 euros.
Bon, on verra ce qu'il en sera. Maintenant, ce qui fait aussi débat, Benoît, c'est la durée de la concession.
Alors oui, 55 ans, ce qui paraît beaucoup. Et dans le cas de l'A69, ce qui est intriguant, c'est que cette durée de concession se décompose en fait en deux périodes, 40 ans plus 15 années supplémentaires, même si le prêt, lui, est amorti au bout de 40 ans. On apprend tout ça dans un rapport de l'ART, l'autorité de régulation des transports.
Et pourquoi on leur accorde 15 ans de plus ?
Eh bien, selon l'ART, il s'agirait en fait d'une exigence des prêteurs, ceux qui soutiennent financièrement l'autoroute. Et ça, eh bien, ça pose question au maître de conférence en droit public et spécialiste des concessions autoroutières, Jean-Baptiste Villa.
Ça, c'est totalement inédit en droit des concessions. À titre tout à fait personnel, je ne l'avais jamais rencontré. Parce que le principe, c'est de se limiter vraiment au temps qu'on estime possible pour être remboursé et faire une marge. Mais il n'a jamais été question, en tout cas devant le Conseil d'État et dans les textes, il n'a jamais été question d'accorder 15 ans de contrat supplémentaire pour assurer des investisseurs. Donc d'un point de vue du droit, ben, on pourrait effectivement conclure que le calcul de la durée n'est pas bon. Et que cette clause, manifestement, a un problème de légalité.
Mais ça veut dire qu'il pourrait être remis en question, ce contrat ?
C'est en tout cas son analyse, et il n'est pas le seul à le penser. Écoutez là-dessus un avocat en droit public, Éric Landau.
Dans une concession autoroutière, la durée du contrat doit aller globalement être calée sur la durée de vie de l'équipement, sur son amortissement technique, comptable, éventuellement commercial. Donc, si la durée d'amortissement du bien est de 40 ans, eh ben, ça ne peut pas passer à 55 ans, sauf à ce que ça soit critiquable techniquement, financièrement et juridiquement.
Et c'est pour toutes ces raisons qu'un avocat qui représente des opposants à l'A69 veut faire annuler cette clause. Christophe Legvac vient de saisir officiellement Gabriel Attal.
Nous écrivons au Premier ministre pour lui demander de reprendre le décret, de l'annuler et de revoir la copie. Dans une concession, le principe de base, c'est que le risque d'exploitation est transféré à l'exploitant. Or là, on nous explique noir sur blanc qu'il n'y a pas de risque d'exploitation, premièrement, et qu'en plus, on fait en sorte que la rentabilité soit certaine pour l'investisseur en lui octroyant 15 années supplémentaires. Ça, c'est complètement illégal. Le Conseil d'État le répète à longueur de décision depuis plus d'un siècle. Le risque d'exploitation est à la charge de l'exploitant. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, il annule le contrat.
Et interrogé là-dessus, Atosca répond que la durée de concession ne dépend pas d'elle, que c'est le choix du concédant, donc de l'État, que cette durée n'a rien d'inhabituel et que de toute façon, elle se serait imposée à toute autre entreprise ayant décroché la concession à sa place.
Bon, voilà qui est dit. Maintenant, en enquêtant sur ce contrat de concession, Benoît, vous avez aussi découvert quelque chose d'assez étonnant, c'est que le concessionnaire a l'intention de demander des dédommagements à l'État français.
Oui, en consultant les documents financiers du Fonds Luxembourg, bourgeois présents au capital d'Atosca, j'ai effectivement découvert que la société concessionnaire réfléchissait à une demande d'indemnisation, ce que m'a confirmé Atosca.
Mais pourquoi il faudrait l'indemniser ?
Alors le concessionnaire explique que la guerre en Ukraine aurait eu un impact sur le contrat et que du coup des discussions sont en cours avec l'État. J'ai interrogé l'avocat en droit public Eric Landau là-dessus. Lui considère que le cadre juridique existe bien, ça s'appelle l'imprévision. Lorsqu'un événement imprévisible vous tombe dessus, eh bien vous pouvez demander un dédommagement, mais il considère aussi que dans ce cas précis, ça n'a rien d'évident.
L'essentiel des travaux commence en 2023-2024 sur cette autoroute, donc il faudrait vérifier que réellement il y a un effet de ces surcoûts, puisque ces éléments d'inflation se sont calmés et que la théorie de l'imprévision, c'est très gentil et très mignon en droit, mais ça reste d'interprétation très stricte par le juge. Donc, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, en 2024, on est encore en imprévision? C'est très, très, très discutable. Et puis, grand 2, surtout, il faut-il qu'on soit sur une consommation énergétique ou des matières premières ayant eu donné lieu à une inflation tout à fait particulière qui soit notable pour construire une autoroute? Et là, il faut regarder ce qu'il en est. Si je gère, une piscine à réchauffer en permanence, évidemment que les coûts énergétiques sont énormes. Sur une autoroute, c'est à vérifier.
À vérifier, et c'est un angle mort de plus dans un contrat qui pose décidément beaucoup de questions.
Ouais, on va s'interrompre quelques instants là-dessus, mais surtout restez avec nous dans une deuxième partie. On va voir qu'un tout proche d'Emmanuel Macron apparaît en arrière-plan de cette saga de la 69. Un peu de douceur et de mélancolie, et ça fait du bien. Ça s'appelle Tejano Blues, et cet extrait de XS, le dernier album du groupe américain Cigarette After Sex.
France Inter, Secret d'info. Jacques Monin.
Et retour à notre enquête sur les coulisses de l'A69 avec vous, Benoît Colomba. Alors on va maintenant s'intéresser à quelque chose d'assez étonnant. Vous avez découvert que la société choisie pour exploiter l'autoroute prospectait en fait des terrains avant même de décrocher le contrat.
Oui, la société NGE, en l'occurrence, dès 2011, des accords commerciaux sont passés avec un bureau d'ingénieurs pour réaliser des études. Et quelques années plus tard, NGE prospecte effectivement déjà des terrains le long du futur trajet de l'autoroute.
Mais des terrains pour faire quoi ?
Eh bien, pour installer 3 carrières pour les travaux à venir. Geoffrey Tarrou est membre du collectif La Voie est libre et opposant à l'autoroute. Et il se demande si NGE ne tentait pas alors de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents.
Le problème, c'est un problème de temporalité, on ne comprend pas très bien, puisque l'appel d'offres et le contrat de concession a été attribué en 2022, soit 6 ans après la signature de ces contrats de carrière. Donc ça interroge. Et on se demande si les dés n'étaient pas pipés depuis le début et si NGE n'avait pas vocation à avoir ce projet coûte que coûte, puisqu'on ne voit pas comment expliquer le fait que 6 ans avant l'attribution du marché, NGE signait déjà des contrats de carrière pour construire une autoroute A69.
Donc 6 ans avant de décrocher le marché, NGE prévoyait d'exploiter des carrières sans être certain qu'il allait décrocher le contrat.
C'est ça, et dans ses propres plaquettes de présentation, NGE explique d'ailleurs avoir commencé à prospecter dès 2016. Et pour vérifier ça, je me suis rendu dans un village du Tarn, à Belcastel, pour rencontrer un agriculteur à la retraite, favorable à l'autoroute, Guy Lafont. Le 12 avril 2017, il a signé un contrat avec NGE pour que l'entreprise de BTP puisse louer pendant 5 ans ses 10 hectares de terrain. Et selon Guy Lafont, l'entreprise semblait vraiment très sûre d'elle.
Ils sont venus me voir si j'étais d'accord, parce que ça les intéressait, parce que mon terrain il était à côté de l'autoroute. Ils recherchaient de la terre, et de la bonne terre pour l'autoroute. Moi, de toute façon, j'avais signé le contrat. J'étais d'accord avec eux, et voilà, c'est tout.
Et est-ce que NGE était sûr d'avoir la concession de l'autoroute ?
Ah ben oui, ils étaient sûrs et certains.
Ils vous l'ont dit ?
Mais bien sûr.
Ils vous ont dit quoi exactement ?
Eh bien que c'était eux qui étaient en premier pour l'autoroute. Sinon, ils ne seraient pas venus me proposer ça. Hein.
Mais ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'ils obtiendraient le contrat ?
Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Mais du côté de NGE, on répond qu'on prospecte régulièrement des terrains et que ça n'a pas joué sur l'attribution du marché. Et je précise que face à l'opposition des riverains, ces projets de carrière ont finalement été abandonnés en septembre 2021, au moment où NGE décrochait le contrat.
NGE, qui, on le précise, vous a répondu par écrit, hein, ce qui explique qu'on ne les entende pas au micro. Un contrat, par ailleurs, je l'ajoute, qui prévoit un petit bonus.
Effectivement, l'entreprise a aussi récupéré gratuitement 2 déviations désormais intégrées au tracé de l'autoroute et qui ont déjà rapporté de l'argent à NGE, comme le rappelle un autre membre du collectif La Voie est libre, Alban Nénon.
Ce sont des déviations qui ont été construites par des filiales historiques de NGE, donc il y a eu la concession, donc ils vont être privatisés. Et nous, on se pose la question, enfin, c'est un peu double jackpot là pour NGE, puisque NGE a été payé par l'État et la région également pour construire ces déviations. Et puis là, double jackpot, c'est cadeau de 75 millions d'euros, valeur 2020, apport en nature, pour la 69, quoi.
Oui, parce que 75 millions d'euros, c'est la valeur estimée de l'argent public déboursé pour l'aménagement de ces 2 déviations.
France Inter, secret d'info.
Alors, autre aspect de l'A69 qu'on n'a pas encore évoqué, Benoît Colomba, il existe une certaine porosité, disons, apparemment, entre la société concessionnaire et les rouages de l'État.
Oui, puisque l'actuel directeur technique d'Atosca est un ancien de la direction régionale de l'équipement et que le président d'Atosca, Thierry Baudard, qui dirige également NGE Concession, est un ancien fonctionnaire qui connaît très bien cette question des routes, puisqu'il a travaillé pendant 3 ans à la direction des routes au ministère des Transports.
Mais en quoi c'est un problème ? problème, Benoît. On a bien le droit de passer du public au privé.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 31 janvier 1994, Thierry Baudard a signé un document qui concerne justement le futur aménagement de l'une des fameuses déviations qu'on évoquait à l'instant.
Ah oui, les déviations qui ont été intégrées à la 69.
C'est ça, et c'est pour ça que le collectif La Voie est libre vient d'effectuer un signalement à la justice. Pour son avocate Marie Dosé, le fait que Thierry Baudard, comme fonctionnaire, ait signé un document lié à la future autoroute, eh bien, ça pose question.
Ce document, il autorise la préfecture du Tarn à procéder à l'acquisition des parcelles appartenant à la commune de Soile. Et cette acquisition permettait par la suite la construction de la déviation de Soile, qui va elle-même être intégrée des années plus tard à l'autoroute. Sauf que 2 ans plus tard, lui, il passe de l'autre côté. Il va travailler pour le compte de sociétés autoroutières, Eiffage, Vinci et NGE en 2013. Et là, très sincèrement, il y a de quoi interroger le parquet sur les risques qu'une telle trajectoire recèle et sur les informations qu'il a pu glaner au fur et à mesure de ses fonctions, d'où notre signalement auprès du parquet national financier.
Alors de son côté, Thierry Baudard, dans une réponse écrite qu'il nous a faite, explique que le document qu'il a pu signer à l'époque l'a été au nom du ministre, et il ajoute que cette déviation a été mise en service en 2000, soit 13 ans avant qu'il ne soit embauché par NGE.
Bon, dont acte. Maintenant, des liens entre des promoteurs du projet et le sommet de l'État, vous en avez identifié d'autres.
Oui, et là on reparle du groupe Ardian, l'une des sociétés dont l'une des filiales est présente au capital d'Atosca. C'est un fonds d'investissement privé qui pèse plus de 150 milliards d'euros d'actifs.
Et donc ?
Eh bien, Emmanuel Miquel, qui fait partie de la direction d'Ardian, a été chargé en 2017 de lever des fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, avant de devenir son conseiller économique à l'Élysée pour les entreprises, l'attractivité et l'exportation. En 2019, il retourne chez Ardian, avant à nouveau de s'impliquer dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022.
Oui, mais est-ce que pour autant, ces liens avec Emmanuel Macron ont pu jouer dans l'attribution du contrat?
Alors lui ne nous a pas répondu, mais Ardian affirme qu'en tant qu'actionnaire indirect, il n'est jamais intervenu dans le dossier de la 69.
Bon, dont acte. Là aussi, maintenant, Benoît, vous avez découvert autre chose, et qui n'a rien à voir d'ailleurs. Atosca, la société concessionnaire, ne va pas gérer que le trafic autoroutier en fait.
Effectivement, elle convoite aussi des terrains proches du tracé, c'est ce qu'on appelle les délaissés autoroutiers, et pour rentabiliser cette bordure de la 69, Atosca a bien une idée derrière la tête, comme le concessionnaire me l'a confirmé dans ce mail que nous avons fait lire.
Atosca recherche actuellement les moyens de contribuer à la politique nationale sur le développement de l'énergie solaire et envisage de confier à un opérateur la construction d'une centrale photovoltaïque sur une partie des emprises autoroutières de l'A69. Cela permettra notamment d'alimenter les bornes de recharge, les aires de repos et les aires de covoiturage prévues sur la future autoroute.
Donc Atosca va aussi s'occuper indirectement de produire de l'électricité.
Oui, et ils font ainsi coup double en verdissant leur image et en faisant rentrer pas mal d'argent, car le solaire est devenu une poule aux œufs d'or pour les concessionnaires comme Vinci, qui a par exemple développé une filiale qui s'appelle Solarvia. C'est ce qu'a découvert le journaliste Emmanuel Lévy dans une enquête publiée l'an dernier dans Marianne avec Vanessa Ratigné. Et dans le cas de la 69, selon Emmanuel Lévy, ça pourrait remettre en cause la manière dont on calcule la rentabilité du projet.
Il s'agit de se poser la question de savoir si les revenus générés par cette production photovoltaïque sont intégrés à l'équilibre du contrat. L'équilibre du contrat, c'est entre l'État et le concessionnaire, le temps de la concession, le niveau des péages, les subventions publiques évidemment. Mais la question, c'est est-ce qu'on a fait rentrer l'hypothèse aussi de revenus issus des énergies photovoltaïques ? Parce que ces revenus viendraient modifier soit le temps de concession, soit le niveau des péages, soit le niveau des subventions, ou un mix des trois. En tout cas, ces revenus-là sont à prendre en compte dans l'équilibre général du contrat.
Mais c'est le cas en l'occurrence ou pas, Benoît ?
Alors j'ai posé la question à Atosca, il m'a répondu que si ce projet se confirmait, les revenus de l'énergie solaire n'auront pas d'incidence sur la durée de la concession, ni sur le montant de la subvention publique. Ces revenus supplémentaires pour Atosca n'ont donc pas été pris en compte lors des négociations sur la concession.
Bon, mais de toute façon, Benoît, tout ça va être regardé de très près, puisqu'on l'a dit, vous l'avez dit d'ailleurs, une commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale.
Oui, pour vérifier si les choses ont été faite dans les règles. Mais la composition de cette commission, elle est aujourd'hui critiquée par les opposants à l'A69.
Et pourquoi ?
Eh bien parce qu'elle est présidée par le député Renaissance du Tarn, Jean Terlier. Or, son épouse travaille pour le groupe pharmaceutique Pierre Fabre, dont on a vu qu'il est très impliqué dans le dossier.
On a vu ça dans la première partie de cette émission. Et Jean Terlier, lui alors, il dit quoi de cette situation ?
Alors lui considère que ça ne l'empêche pas de faire son travail de contrôle parlementaire.
Ni de près ni de loin, mon épouse, en sa qualité de salarié, de simple salarié du groupe Pierre Fabre, n'a eu de responsabilité pour décider de la communication en faveur de l'autoroute A69. Pour qu'il y ait un conflit d'intérêts, il aurait fallu qu'il y ait un intéressement financier de la part des laboratoires Pierre Fabre, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat de concession. Les laboratoires Pierre Fabre ne sont pas intéressés financièrement, ni même juridiquement, au contrat de concession. Donc, il n'y a pas d'intérêt financier pour les laboratoires Pierre Fabre à la réalisation de cette infrastructure autoroutière.
Ouais, sauf que Benoît, peu après cette interview, vous avez découvert que Pierre Fabre est bien intéressé financièrement au contrat de concession.
Oui, ça figure noir sur blanc dans les comptes au Luxembourg d'un fonds d'investissement lié à la société qui exploite la 69. On y apprend que Pierre Fabre a prévu d'entrer au capital d'une société actionnaire d'Atosca.
Ouais, sauf que ça, Pierre Fabre l'avait bien caché.
Oui, jusqu'à ce que je lui demande des explications, le groupe me dit qu'il va me répondre, sauf que 8 jours plus tard, surprise, la Dépêche du Midi publie une longue interview du directeur général de Pierre Fabre qui en profite pour révéler l'information comme pour atténuer par avance l'effet d'une révélation.
C'est ce qu'on appelle une stratégie de communication. Mais sur le fond, donc, Pierre Fabre reconnaît bien qu'il a pris un intérêt financier dans l'autoroute.
Alors oui, écoutez ce que la direction du groupe a fini par me répondre. Nous avons fait lire un extrait du mail qu'elle nous a envoyé.
Nous avons longuement réfléchi à prendre cette participation, car ce n'est bien sûr pas notre vocation. Ce qui nous a décidé, c'est qu'elle nous procure un poste privilégié d'observation pour veiller au respect par le concessionnaire de ses engagements, en particulier en matière d'environnement et de création d'emplois locaux.
Bon, dont acte maintenant, si Pierre Fabre est bien partie prenante au contrat de l'autoroute. Quid du président alors de la commission d'enquête parlementaire ? Est-ce qu'on peut enquêter alors que sa propre épouse travaille pour un acteur qui, on le voit, est impliqué dans le dossier ?
Eh bien, le député Jean Terlier que j'ai recontacté considère toujours que oui. Et c'est également l'analyse du déontologue de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête parlementaire devrait rendre son rapport d'ici le début de l'été.
Et un rapport qu'on étudiera avec beaucoup d'intérêt. Merci Benoît Colombat. Alors je précise que votre enquête, on peut la lire sur l'appli France Inter et on peut aussi podcaster cette émission sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Titouan Labarre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.